Guillaume Vendégout intronisé grand chef de l'île des Pins. La cérémonie en cours a débuté ce matin. Les urgences de l'hôpital de Poindimier fermées la nuit à partir de ce soir par manque de médecins. Des renforts de métropole sont attendus en novembre. Le sud-est de l'Australie encore sous les eaux, notamment la région de Melbourne où des centaines d'évacuations préventives sont en cours. En métropole, les négociations ont commencé entre la direction de Total Energy et les syndicats. La CGN annonce vouloir étendre son mouvement au secteur des transports. Et puis dans la page de sport du football notamment, Rennes se qualifie pour les 16e de finale de la Ligue Europa, mais ça coince pour Nantes et Monaco qui encaissent une lourde défaite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par l'actualité politique et notamment avec les rendez-vous du vendredi. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
C'est le retour du magazine Transparence dès la fin de ce journal et votre invitée sera aujourd'hui Sonia Backès.
Sonia Backès, présidente de la province sud mais aussi secrétaire d'État en charge de la citoyenneté. Nous la recevrons dans le magazine Transparence et nous l'interrogerons sur l'actualité politique calédonienne. Elle est dense, avec notamment le calendrier des discussions annoncées par la Première Ministre et par le Ministre de l'Intérieur. Et puis les différentes prises de position des derniers jours. Nous évoquerons également la politique nationale et son rôle au sein du gouvernement. On se retrouve donc d'ici une demi-heure en compagnie de Sonia Backès. Ce sera juste après votre journal.
Et le retour à 16h45 également du Club Politique Radio Rythme Bleu.
Et au sommaire du Club Politique ce soir, les déplacements à Washington et à New York ces dernières semaines, mais aussi le calendrier des discussions à Paris. Est-ce que l'on peut en attendre avec notamment la décision du FLNKS de ne pas envoyer de délégation à ces discussions? Nous reviendrons également sur la démarche commune présentée hier par Thierry Santa, Pascal Vittori, Alain Descombelles et Pascal Lafleur, un club politique qui débute à 16h45 et qui, je le rappelle, est rediffusé le samedi matin à partir de 11h.
Et vous venez de le rappeler, Elisabeth, il n'y aura pas de délégation du FLNKS à Paris pour les réunions du 27 et du 28 octobre. Décision prise à l'issue de la réunion du bureau politique élargi du FLNKS qui se tenait hier à la tribu de Wagap à Poindimier. Les discussions ont été longues entre les quatre composantes du Front. L'UC et le RDO ne souhaitent pas aller à Paris. Le PALIKA et l'UPM hésitent, faute de consensus. Il a donc été décidé qu'il n'y aurait pas de délégation FLNKS pour assister au bilatéral et à la convention de partenaires, explique Victor Tutugoro.
Le FLNKS s'est mis d'accord sur le fait de dire oui, on a obtenu un bilatéral avec le gouvernement. Donc, on est d'accord pour discuter en bilatéral avec l'État sur l'accession à la pleine souveraineté. C'est ce qu'on a toujours réclamé jusque-là. Donc, OK pour discuter, sauf que l'on ne s'est pas mis d'accord sur la date. Une partie du front préconisait d'aller au rendez-vous fixé par le gouvernement à Paris. L'autre partie du front a indiqué qu'il valait mieux faire ce travail de bilatéral, cette réunion bilatérale, après les congrès du front de fin d'année, après le mois de novembre. Et donc après, sur le lieu, une partie d'accord pour aller à Paris, et donc l'autre partie pas d'accord pour aller à Paris, donc de faire les réunions ici en Nouvelle-Calédonie. Au terme de cette longue discussion, la décision finale a été de dire ben, il n'y aura pas de délégation du FLNKS qui se rendra à Paris pour les réunions du 27 et du 28, bilatéral du 27 et le comité des partenaires du 28.
Pas de délégation FLNKS, mais les différentes composantes ont des positions différentes et les représentants de certains partis pourraient tout de même aller à Paris. La décision sera prise ce samedi. Le PALIKA réunira son Assemblée Générale à Pointe-Boute et l'UPM tiendra son comité central à Poya.
Le PALIKA et l'UPM qui défendaient la thèse d'aller à Paris pour les 27 et les 28 se réunissent ce week-end, c'est samedi. L'une à Poya et l'autre à Pointe-Boute. Donc ils vont continuer la discussion pour savoir s'ils vont bouger en interne ou pas. Mais en tout cas, tout le monde a bien pris en compte qu'il n'y aura pas de délégation du FLNKS. L'UC et le RDE ont défendu l'option de ne pas y aller et d'attendre les différents congrès qui ont lieu cette fin d'année.
La situation pourra donc évoluer ce week-end, d'autant plus qu'il y a aussi la possibilité pour certains élus d'être présents au travers des différentes institutions ou en tant que signataires de l'accord. Et puis de son côté, l'Association française des maires est réunie depuis ce matin, invitée à participer à la convention des partenaires à Paris. Ses membres doivent désigner leurs représentants à cette réunion.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Comprenez-vous la décision du FLNKS qui n'enverra pas de délégation à Paris pour les discussions des 27 et 28 octobre? Si vous comprenez cette décision, vous tapez 1. Si vous ne la comprenez pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à la question d'hier, 86% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment qu'après sa condamnation pour conduite en état d'ivresse et sans permis de conduire, Hugues Vemhavet ne doit pas conserver la présidence du Sénat coutumier. Ils ne sont que 14% à être d'un avis contraire. Et direction l'île des Pins maintenant, où se déroule aujourd'hui l'installation coutumière de Guillaume Kéoua Vendégou en tant que grand chef de l'île des Pins. Le grand chef est président du Congrès, Roque Mitan, et le président du Sénat coutumier, Hugues Vémavé, sont sur place pour cet événement. La journée sera notamment marquée par la plantation de deux arbres. Maurice Cateux, responsable de la communication et des relations extérieures à la grande chefferie.
Après tout ce travail ce matin, les festivités commencent, les danses, tout ce qui est festivités commence à partir de 11h jusqu'à ce soir. Voilà. Les danses qui vont être faites par les quatre groupes de l'île, et puis une danse spéciale réservée à la nomination des grands chefs. Et ça, c'est effectué par une tribu spécialement conçue, cette danse spécialement pour le grand chef. C'est les danseurs de Wapan.
Et c'est évidemment une journée particulière pour tous les habitants de l'île, nous a dit Maurice Cateux.
Vraiment, j'ai pas trop de mots pour dire ça, mais on le vit qu'une fois dans notre vie. Nous, notre génération à nous, les jeunes, c'est un grand moment, c'est un moment très très important. On le vit qu'une fois. Un jour comme celui-ci, l'intronisation du grand chef Kéoua, ces moments-là, on les a jamais vécus depuis jusqu'à là. Donc c'est le moment pour tout le monde de se rencontrer et de pouvoir se rassembler autour du grand chef pour ce moment unique. C'est important parce que c'est l'aboutissement d'un long travail qui a été initié déjà depuis 2 ans et que c'était beaucoup de travail, de palabres entre les clans pour pouvoir en arriver au résultat qu'on voit aujourd'hui, voilà, la nomination du grand chef. Voilà. Parce qu'il fallait s'entendre sur beaucoup de points et qu'il fallait absolument que les clans clés de l'île se mettent d'accord pour désigner la personne qui va prendre le relais du défunt Hilario Vendégou.
Des propos recueillis par Kélinda Boiscou, rappelons que des tensions étaient survenues au cours des derniers mois car une partie de l'île soutenait Ambroise Vendégou et contestait la nomination de Guillaume Vendégou qui est donc intronisé aujourd'hui. Il est 11h37, une pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie. Nous reviendrons notamment sur les difficultés financières d'Enercal.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Job d'été, tu connais et tu veux t'inscrire? Va sur province-sud.nc/job-été et laisse-toi guider. C'est important que tu t'inscrives sur cette plateforme pour ensuite te présenter dans une entreprise.
Si t'as un problème d'ordi ou de connexion, casse pas la tête. Viens à l'espace jeune de la province sud au 1315 rue Jules Ferry sur les quais à Nouméa. Et si tu habites en brousse, nos soucis, il y a les salles informatiques équipées de la province sud à l'IDP, Yaté, Clio, Boulou Paris, La Foy, Bourail. Tu as toutes les informations sur la page province-sud.nc/job-été. La province sud, agir pour l'avenir.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Les difficultés financières d'Enercal, nous en avons parlé avec Jean-Gabriel Fagé, le directeur général de la société qui était notre invité ce matin à 7h30. Le producteur, transporteur et distributeur d'électricité fait face à une situation difficile. La principale cause, c'est que la vente de l'électricité hors industrie métallurgique ne couvre pas les coûts de production et d'acheminement. Cela génère non pas du déficit, mais d'importants problèmes de trésorerie, nous a dit Jean-Gabriel Fagé.
Les coûts ne sont pas couverts par les recettes, mais cette différence, ce déficit, en réalité, on le comptabilise dans nos comptes, et c'est pour ça qu'on paye de l'impôt sur les sociétés. La société est bénéficiaire d'un point de vue comptable, mais il nous manque un versement de cette compensation qui devrait venir du gouvernement.
Et c'est une somme de combien, à peu près, qui vous manque ?
Aujourd'hui, on estime qu'il manque 8 milliards dans le système électrique par accumulation des déficits antérieurs, avec, comme je le disais, cette perspective de résorption à un horizon assez court. Sauf qu'il y a ces 5 milliards supplémentaires liés, et c'est les prévisions qu'on fait aujourd'hui, mais avec beaucoup d'incertitudes hein, sur le prix des combustibles dans les années qui viennent. Donc il y a une situation très tendue.
Après 13 ans de gel des prix pour les particuliers, le gouvernement a décidé des augmentations graduelles en trois phases qui devaient permettre à Enercal de retrouver un niveau de trésorerie suffisant. Mais la guerre en Ukraine et la forte augmentation des prix de l'énergie vient à nouveau peser sur la trésorerie.
Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, pour produire l'électricité pour les Calédoniens, les 110 000 consommateurs, les énergies fossiles sont encore majoritaires. Et le charbon, l'année dernière, pesait pour la moitié des productions et donc des kilowattheures consommées par les Calédoniens.
Vous achetez combien de bateaux de charbon par an et quel est le gap que vous constatez?
Mais en temps normal, c'est 8 bateaux, c'est un peu plus de 3 milliards. Une cargaison a vu son prix multiplié par 5. On est passé de 400 millions à presque 2 milliards. Donc c'est tout à fait intenable, même si on a fortement réduit nos consommations de charbon, pour la petite histoire, en sollicitant davantage des moyens de production à partir du fioul, qui paradoxalement est devenu moins cher que le charbon, alors qu'historiquement c'était l'inverse et de loin.
Pour ne pas dépendre des énergies fossiles, la Calédonie est engagée dans un schéma de transition énergétique pour produire de l'énergie renouvelable, mais cela nécessite bien sûr des investissements avec quelques incertitudes financières.
Les perspectives des coûts de production du renouvelable sont orientées à la baisse, on le constate depuis quelques années. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Plus il y aura d'énergie renouvelable, moins les coûts de production seront élevés et surtout plus on résistera aux aléas externes, c'est-à-dire à ces crises qu'on connaît somme toute assez régulièrement sur les marchés des combustibles. Après, pour faire tracer des perspectives de coût de production de l'énergie, il y a une incertitude qui pèse encore sur nous, c'est le coût du stockage. L'énergie photovoltaïque, elle est pas chère à l'instant T, mais on en a besoin toute la journée alors qu'elle n'est disponible que quelques heures par jour. Donc il faut stocker. Aujourd'hui, ça reste une incertitude majeure, le coût du stockage dans les années qui viennent.
Jean-Gabriel Faget, directeur général d'Enercal, qui était ce matin notre invité, il a aussi rappelé que le kilowattheure qui coûtait le moins cher était celui qui n'était pas produit car pas consommé. Les particuliers et les entreprises ont encore des marges de manœuvre pour réduire la consommation d'électricité et donc leurs factures. Enercal et l'Agence calédonienne de l'énergie devraient lancer une vaste campagne de communication sur les sujets dans les semaines qui viennent. Les urgences de l'hôpital de Point-d'Imier ne fonctionneront plus la nuit à partir de ce soir. Le service d'urgence ne sera désormais ouvert que de 8h à 17h, car il n'y a qu'un seul médecin sur place. Depuis le mois de septembre, le CHN tire la sonnette d'alarme concernant la pénurie de personnel. Jusque-là, des solutions provisoires avaient été trouvées pour éviter la fermeture. Ce coup-ci, Joachim Tutugoro, le directeur du CHN, a dû prendre une décision difficile.
Ce n'était qu'un répit. Et finalement, on se trouve dans la situation maintenant... Il manque de la ressource. En fait, je n'ai qu'un seul médecin. Il ne peut pas être d'astreinte H24 pendant plusieurs jours, le temps qu'on puisse trouver une solution. La décision qui a été prise hier, c'est de fermer le service des urgences de Point-d'Imier la nuit. On démarre ce soir de 17h à 8h du matin le lendemain. Et la journée, le médecin est là, donc il reprend en charge le service des urgences. La nuit, l'accès aux urgences est bloqué. Ça veut dire qu'il n'y a pas de service d'urgence ouvert et il faut que les gens appellent le centre 15. C'est le centre 15 qui régule. Et donc les urgences restent bien ouvertes la journée. En principe, nous prévoyons l'arrivée d'un médecin depuis la métropole en début novembre. Tout le monde est bien conscient que la pénurie médicale qui est générale, sont en plein dedans. C'est un mauvais cap à passer, mais on est en plein dedans.
À Koumak aussi, la situation est tendue. Les deux médecins reçoivent le renfort d'un docteur de la commune. Et puis les internes en grève au CHT Nicolas Legrand. Le mouvement ne perturbe pas le fonctionnement du Medipôle. Les jeunes médecins en formation s'opposent à un texte national.
Oui, il s'agit du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Deux articles les inquiètent tout particulièrement. Le premier prévoit de rajouter une année d'études en médecine. Il serait alors obligé de passer une quatrième année d'internat dans les déserts médicaux. Et Nora Danger est calédonienne. Elle a étudié la médecine générale en métropole. Elle est aujourd'hui en stage au Medipôle. Et pour elle, ce texte peut avoir des conséquences directes pour les jeunes calédoniens qui souhaitent revenir exercer sur le territoire.
Tous les médecins calédoniens se sont formés en métropole. Il faut savoir que la médecine générale, pour le moment, c'est 9 ans d'études. Donc le passer à 10 ans d'études, ça serait retarder en fait d'exercer en libéral et potentiellement revenir au pays en Nouvelle-Calédonie. Il y a deux discours qui sont tenus par le gouvernement. D'un côté, on dit qu'on n'est pas assez formé et qu'on nécessite une quatrième année d'études. Et d'un autre côté, on nous dit que vous êtes assez formé et donc vous pouvez aller dans les déserts médicaux où il n'y a pas de médecin senior pour vous superviser et ce sera vous qui soignerez les patients qui sont dans ces déserts médicaux. Donc ça serait mettre en danger et les patients qui vont voir défiler des médecins tous les ans. Et ça serait mettre aussi en danger la population des internes qui est déjà fragile. Il y a un taux d'anxiété, de burn-out, de dépression. Il faut savoir qu'il y a quand même un interne tous les 18 jours en métropole qui se suicide. C'est énorme.
Et pour Enora Danger, il s'agit aussi pour le gouvernement de régler le problème des déserts médicaux dans l'Hexagone à moindre coût, car un interne en médecine est payé entre 200 et 250 000 francs par mois après 7 ou 8 années d'études. Un deuxième point met en colère les internes. Il s'agit de l'article 25 qui interdit l'intérim aux jeunes diplômés. Là aussi, un point qui nous concerne alors que nous sommes confrontés à une pénurie de médecins sur le territoire et notamment dans les CMS.
Ça dépend quelle est la définition d'intérim pour le gouvernement, mais il faut savoir que les médecins qui sont aux urgences dans les dispensaires, qui font des CDD de 3 semaines à 1 mois, ce sont des nouveaux médecins. Donc si on leur interdit de faire des remplacements de 3 semaines à 1 mois, qui va venir en Nouvelle-Calédonie? En tout cas, ce sont des jeunes médecins qui viennent.
Un rassemblement est prévu cet après-midi à 13h au Medipôle. Une dizaine d'internes seraient grévistes aujourd'hui. Un mouvement qui ne perturbe toutefois pas le bon fonctionnement de l'hôpital.
Il est 11h45.
Dans un instant, l'actualité en métropole et dans la région. Mais avant cela, on vous rappelle qu'il y a un tirage au sort pour le jeu chance à 14h cet après-midi. Ce qui veut dire que vous devez envoyer chance au 31-46 avant 14h pour avoir une chance d'être tiré au sort pour le jeu chance. Un jeu chance avec un magnifique cadeau, hein, n'est-ce pas Stéphane?
Un cadeau d'une valeur de 122 000 francs. Vous séjournerez 6 nuits en bungalow, tout confort, cuisine équipée, terrasse et jardin privatif, offert par l'hôtel de Poé, ainsi que 2 vols offerts par Cap ULM.
Voilà, c'est un cadeau d'une belle valeur. Donc on vous invite à envoyer chance dès maintenant au 31-46. Je vous rappelle que le tirage au sort aura lieu tout à l'heure à 14h. Dans un instant, ce sera donc l'actualité en métropole et dans la région Pacifique.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Mais il te reste des anciennes pièces?
Bah oui, pourquoi?
Tu sais, hein, tu as jusqu'au 30 novembre pour les utiliser.
Ah bon?
Après, ce sera trop tard.
Il vous reste des anciennes pièces? Vous avez jusqu'au 30 novembre pour les utiliser. Plus d'informations sur www.ieom.fr.
La ville de Dumbéa organise son festival en quartier du 6 au 14 octobre au complexe sportif de Dumbéa Centre. Spectacles et villages d'animation culturelle et sportive vous y attendent. 100% gratuit, restauration sur place. Programmation complète sur dumbéa.nc.
Dumbéa, j'aime y vivre.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
Et la suite d'Infomag avec vous, Jean-François Baudin.
En métropole, les syndicats sont en discussion avec la direction du groupe Total Énergie depuis cette nuit. Discussion qui porte sur les salaires. La direction a proposé une prime équivalente à 1 mois de salaire et une augmentation de 6% calquée sur l'inflation. Mais la CGT veut plus, ce qui rend les négociations difficiles. Thierry Dufresne de la CGT participe à ces réunions.
La seule proposition qu'elle a faite, c'est celle qu'elle a faite ce matin dans les médias. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune avancée. Même pire, puisque sur cette fameuse enveloppe de 6% qu'elle propose, elle ne propose pour l'instant aucun chiffre d'augmentation générale. Aujourd'hui, c'est pas les syndicats qu'il faut convaincre à la table des négociations. Ça n'est pas, même pas la CGT. Ce sont les grévistes. Il faut une proposition sur la table qui soit de matière à faire lever le mouvement de grève sur les sites de Total Énergie. Et ça, la direction n'est pas du tout dans cette dynamique. Elle est dans une dynamique habituelle, comme si tout allait bien. On a même eu une provocation de la direction à nous dire finalement tout va bien chez Total Énergie, on vous paye bien, il n'y a pas besoin de faire quelconque rattrapage et donc on va bien vers une proposition qui sera inférieure à l'inflation.
La CGT qui a visiblement décidé de faire feu de tout bois puisqu'elle menace d'une grève générale mardi prochain, notamment dans les transports SNCF et RATP. Là encore, la demande porte essentiellement sur des hausses de salaire, mais c'est aussi un mouvement de solidarité avec les 6 salariés de Total réquisitionnés, explique Laurent Brun, secrétaire général national de la CGT Cheminots.
C'est la question de la faiblesse des salaires puisqu'il y a eu une multiplication d'actions en début d'année et puis 2 grandes journées nationales à la SNCF sur les salaires et nous n'avons obtenu qu'un 1,3% d'augmentation de salaire. Alors que, comme tout le monde le sait, l'inflation est à autour de 6%. Donc c'est la question des salaires. Et ce qui a évidemment précipité l'état d'esprit des collègues, c'est la violence du gouvernement avec ces ordres de réquisition qui a beaucoup fait discuter dans les entreprises et qui nous impose de passer à l'action puisque les collègues demandent à ce que nous aussi on rentre dans la danse sur la question des salaires et qu'on défende nos revendications sur le sujet.
Et notez que dimanche, la France Insoumise doit organiser à Paris une marche contre la vie chère. Les atteintes à la laïcité et à la loi de 2004 sur le port des signes religieux dans les établissements scolaires se multiplient. 313 signalements ont été effectués rien que pour le mois de septembre par l'Éducation nationale. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'influenceurs que le ministre de l'Éducation nationale appelle des agitateurs islamistes encouragent le port de signes religieux et donnent des conseils pour contourner la loi de 2004. Pape Ndiaye en est conscient.
Nous sommes très attentifs au fait que des réseaux sociaux avec des défis sur TikTok incitent les jeunes au port de ces tenues. Et donc, notre réponse, c'est l'application ferme de la loi de 2004 et puis tout l'appui que les académies peuvent donner aux chefs d'établissement qui sont concernés par ces signalements.
Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. On en vient à l'actualité dans la région avec de nouvelles inondations dans le sud-est de l'Australie, particulièrement la région de Melbourne qui a connu ces dernières heures de fortes précipitations. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le Premier ministre du Victoria, Daniel Andrews, a indiqué ce matin que 500 maisons sont inondées ou sont sur le point de l'être, rien que dans Melbourne et ses environs. Des centaines d'évacuations préventives sont en cours dans l'ensemble de l'État, où les fortes pluies de ces dernières 24 heures, de l'ordre de 230 mm par endroit, ont fait sortir les rivières de leur lit. Ceci alors que les sols de la région sont déjà saturés par les épisodes pluvieux de ces dernières semaines. La situation est tout aussi précaire dans le centre-ouest du New South Wales, où 250 maisons sont déjà inondées ou sont menacées par la montée des eaux à Forbes. Là aussi, des évacuations sont en cours, tandis qu'en Tasmanie, pratiquement toutes les rivières sont en crue, ce qui a amené les autorités à ordonner des centaines d'évacuations. À Sydney, Jean-Pierre Dajac, RRB.
11h52, dans un instant le sport avant de retrouver le magazine Transparence.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Le golf, c'est la santé. Bougez, respirez, golfez. Attention, les golfs de Dumbéa et de Deva vous invitent à vous initier au golf gratuitement du samedi 15 au dimanche 31 octobre. Alors profitez-en et réservez par téléphone en appelant Dumbéa au 41 8000 ou Deva au 20 70 16. Du 15 au 31 octobre, le golf, c'est gratuit. Qu'on se le dise, désormais, plus rien ne vous retient pour oser le golf.
Attention, ceci est un message de votre magazine Coco TV. Retrouvez aujourd'hui avec les nouvelles calédoniennes votre magazine télé préféré Coco TV.
Actu films, séries, streaming, recettes, jeux et bien sûr tout le programme télé de la semaine au grand complet.
Alors n'oubliez pas, Coco TV, c'est aujourd'hui avec les nouvelles calédoniennes.
Ceci était un message de votre magazine Coco TV.
Coco TV, l'actualité de tous les écrans.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive.
Avec Decathlon, suivez toute l'actualité sportive du jour. Toutes les infos et tous les résultats locaux, nationaux et internationaux.
Decathlon, le sport pour tous, tout pour le sport.
Commençons par parler football et avec cette journée à oublier pour les clubs français engagés en Coupe d'Europe, 3 sur 4 se sont inclinés lors de cette quatrième journée, Frédéric Jonchery.
Et donc deux très lourdement. Monaco a été balayé chez les Turcs de Trabzonspor, 4-0 avec un premier but cadeau juste avant la pause. Malonga Sarr déviant dans ses propres cages un dégagement logiquement anodin de son gardien. L'ASM est troisième à 3 points du leader, Ferencváros. La qualification est encore à leur portée. Autre déroute, celle de Nantes à domicile face à Fribourg, 4-0. C'est la sixième défaite en sept matchs des Canaries, toutes compétitions confondues. Antoine Comboiré.
Ben, c'est une lourde sanction ce soir qu'on a subi face à cette équipe de Fribourg. On a fait un match intéressant, mais c'est difficile de tirer des points positifs quand vous prenez 4-0 à domicile, de surcroît. Non, pas assommé. On est déçus, on est... Ouais, il y a de la colère parce que tu dois faire beaucoup mieux. On parle de réalisme, on parle d'efficacité. Et c'est ce en quoi donc, on doit apprendre de cette équipe de Fribourg.
Et pour encore rêver des 16e de finale, les joueurs de Comboiré devront remporter les deux derniers matchs et espérer un faux pas de Karabakh lors de la dernière journée. Seul Rennes s'est imposé en Ligue Europa aujourd'hui. Les Rennais sont allés gagner en Pologne face au Dynamo Kiev 1-0 grâce à un but de Wu et sont assurés de jouer les 16e de finale puisque dans le même temps, le co-leader Fenerbahçe a battu l'Arnaka 2-1. Les Turcs sont qualifiés tout comme les Bretons. Et enfin, en Ligue Europa Conférence, Nice a perdu chez lui 2-1 face à la Lanterne Rouge de son groupe slovaco, alors que les Aiglons menaient 1-0 jusqu'à un quart d'heure de la fin. Il se complique la tâche, la qualification n'est pas gagnée.
Allez, on passe au judo et les Bleus ont achevé leur mondiaux en Ouzbékistan par une médaille d'argent remportée par l'équipe mixte.
Emmenée par sa nouvelle championne du monde, Roman Diko, les tricolores se sont hissés jusqu'en finale en sortant tour à tour la Géorgie, la Chine et Israël. Mais donc, avant de s'incliner en finale face au Japon, 4-2. Le premier sur le tatami était le Calédonien Alexis Mathieu, qui a perdu en moins de 90 kilos face à Kogi Tajima. Après avoir essuyé un wazari, il a été sorti sur ripon.
Du handball, et les Bleus n'ont pas manqué leur entrée en qualification pour l'Euro 2024 en Allemagne.
Ils se sont imposés à Poitiers face à la Lettonie 35-18. Et à cette occasion, la Fédération française a fêté un peu en avance les 20 ans de Nicolas Karabatic, sous le maillot frappé du coq. Le joueur de 38 ans avait entamé sa carrière en bleu le 2 novembre 2002. Il compte à présent 336 sélections et la prochaine pourrait intervenir dès lundi matin face à l'Italie à Pescara.
Et après le handball, le basketball, Monaco a fait tomber le double tenant de l'Euroleague ce matin lors de la deuxième journée.
La Roca Team s'est imposée après prolongation face à l'Anadolu Efes Istanbul 95-92 et enchaîne un deuxième succès de rang. Monaco est donc provisoirement seul en tête. On signera également la victoire dans le Classico de Barcelone face au Real Madrid, là aussi très peu, 75-73. Demain, l'ASVEL se déplacera à Valence à 5h45.
Et puis le cyclisme sur piste, l'équipe de France débloque son compteur médaille dans ses mondiaux à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Après avoir signé un zéro pointé hier avec l'élimination précoce de ses équipes de vitesse et de poursuite messieurs, la France a enregistré une première médaille ce matin. Il s'agit de bronze décroché par l'équipe féminine de poursuite. Marion Borras, Clara Copponi, Valentine Fortin et Victoire Berthaud ont battu l'Australie dans la petite finale.
Le cyclisme toujours, mais en Calédonie. On courait ce matin la sixième et avant-dernière étape du Tour Cyclo du Caillou et d'autour d'elle.
La longue race longeait la côte ouest entre Bouraille et Boulou-Paris sur 77 km et la short race partait elle de Moindou pour 52 km. Une étape pas difficile sur le papier, mais avec un vent défavorable, il fallait avoir l'œil partout, sauter dans tous les coups pour ne pas se laisser partir une échappée. Le compte-rendu de l'étape avec Tommy Van Oudendijk, le président du comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie.
L'ennemi majeur aujourd'hui sur cette étape, c'était le vent de face ou de côté et une arrivée au sprint en fait pour les différents pelotons. Mais il y avait quand même une échappée de 5 coureurs sur la long race qui s'est déformée dès l'arrivée à la fois. Et donc une victoire au sprint du jeune Hervé Salin devant Martial De Villers et Johan Rossignol. Et puis chez les féminines, Marc-Arie Lédé qui gagne sur un groupe de 5 féminines devant Manon Brasseur, suivi par Hortense Apey.
Et demain, le tour prendra fin à Plum avec au programme 3 tours du Mont d'Or pour la long race et 2 pour la short race.
Allez, autre épreuve qui touche à son terme, c'est de la voile avec la fin cet après-midi de l'Alliance Championship à la Côte Blanche.
Les 69 optimistes sont repartis à 10h pour 3 à 4 dernières courses. Après 3 jours de compétition et 15 courses, le Néo-Zélandais Isaac Gates est toujours aux avant-postes devant les Calédoniens Anton Lecoyer qui a remporté un tiers des courses et Martin Boucher qui en a remporté 2. Les deux licenciés du SRC pointe à 16 et 50 points. Quant à Romy Brun, elle est cinquième au général et première féminine. La remise des prix se fera à 18h.
Merci Frédéric. La fin de ce journal. Mais à suivre dans un instant le magazine Transparence. Cette semaine, Elisabeth Noir reçoit Sonia Baquès, présidente de la province sud et secrétaire d'État en charge de la citoyenneté.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.